Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi et demi pile, bienvenue à tous, bonjour, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. La droite embarrassée par la montée d'Éric Zemmour dans les sondages. Damien Abad, qui est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, propose aux polémistes de débattre avec lui. Nos informations à suivre avec Alexandre Chauveau et puis on sera en direct avec le trésorier des Républicains, Daniel Fasquelle. Gérald Darmanin annonce la dissolution de 10 lieux de culte et de 2 associations. Le ministre de l'Intérieur a demandé la dissolution également d'une maison d'édition qui incite à l'extermination des juifs et qui légitime la lapidation des homosexuels. Vous avez bien entendu, il est question évidemment d'islamisme. Alexandre Delval, spécialiste de ces questions, sera en direct avec nous dans un instant. L'altitude du Mont Blanc vient d'être recalculée. Le Mont Blanc mesure 4807 mètres. Et 80 cm exactement, on sera en direct avec le chef de la mission de calcul, le géomètre expert Jean Desgarret, qui a choisi Europe Midi pour parler. Et puis vous entendrez un morceau inédit de John Lennon, et oui, qui date d'une cinquantaine d'années. Europe 1. Les Républicains bousculés par la montée en puissance d'Éric Zemmour dans les sondages. Dans la dernière enquête Harris Interactive pour Challenge, Éric Zemmour est crédité de 13 à 14% des intentions de vote. Alexandre Chauveau, bonjour.
Bonjour.
Service politique d'Europe 1. Certains chez les Républicains proposent de débattre avec Éric Zemmour.
Oui, la proposition émane du président des députés LR à l'Assemblée, Damien Abad, qui dans un courrier envoyé ce matin à Éric Zemmour, lui propose de confronter ses convictions avec lui. Alors en interne, l'initiative est loin de faire l'unanimité. Certains la trouve même suicidaire face à un Éric Zemmour réputé pour ses qualités de débatteur et qui s'en est pris ces derniers jours aux Républicains, parti de notables centristes, dit-il, coupable selon lui d'avoir trahi le gaullisme. Sa participation potentielle au congrès du 4 décembre ne cesse d'être évoquée. François-Xavier Bellamy lui a ouvert la porte, mais les cadres du parti y sont fermement opposés. Écoutez Gérard Larcher, il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Éric Zemmour, c'est le candidat de l'extrême droite. Je ne partage rien des idées, des valeurs que Éric Zemmour propose.
Pourtant, une partie de l'électorat de droite est assurément séduite par le discours du polémiste qui occupe l'espace médiatique et politique, à l'inverse des Républicains dont le nom du candidat ne sera pas connu avant 2 mois.
Alexandre Chauveau, merci Alexandre. On est en direct avec Daniel Fasquelle, maire du Touquet et trésorier des Républicains. Bonjour Daniel Fasquelle.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Proposer un débat avec Éric Zemmour, c'est une bonne solution selon vous ?
Non, je suis souvent d'accord avec Damien Abad, mais là, pour le coup, je ne partage pas du tout son point de vue pour 2 raisons. La première, c'est que ce n'est pas la peine de faire de la publicité à Éric Zemmour, il n'en a pas besoin et il faut surtout débattre avec les Français, avancer nos idées plutôt que de vouloir donner un coup de projecteur supplémentaire à Éric Zemmour. Et puis par ailleurs, sur le fond, moi je crois qu'il faut, comme Chirac avait fait avec Le Pen, maintenant tresser clairement une digue, un cordon sanitaire entre Éric Zemmour et nous. Nous n'avons absolument rien à voir avec lui, comme le disait Gérard Larcher. Enfin, moi je viens d'une famille gaulliste, comment demain accepter de discuter avec quelqu'un qui met sur le même plan De Gaulle et Pétain, quelqu'un qui est adepte de la théorie complotiste du grand remplacement, quelqu'un qui a des propos inadmissibles sur les femmes, alors que Gérard De Gaulle a donné le droit de vote aux femmes. Enfin, je crois que vraiment, nous n'avons rien en partage avec Éric Zemmour, et nous n'avons pas à discuter avec lui. Il faut l'ignorer, par contre, tracer notre route, choisir notre candidat, développer nos idées.
Il a répondu à Damien Abad sur Twitter, Éric Zemmour, il y a 42 minutes exactement. Il dit « Damien Abad, vous vous proposez, sous-entendu pour débattre avec moi, parce que votre patron, Xavier Bertrand, n'ose pas le faire. Est-ce que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, doivent, eux, débattre avec Éric Zemmour ou vous maintenez votre souhait de créer une digue entre Zemmour et le reste de la droite ?»
Vous pourriez ajouter Michel Barnier qui, en tant que justement gaulliste et européen, aurait beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Mais non, enfin, maintenant, à chacun de répondre. Si Xavier Bertrand souhaite débattre avec Éric Zemmour, ce n'est pas à moi à en décider. Vous savez que je suis proche de Michel Barnier. Moi, s'il me demandait un avis, je lui déconseillerais de le faire parce que je pense qu'on n'a pas à débattre avec Éric Zemmour comme à un moment on n'a pas eu à débattre avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, nous devons débattre avec les Français. Alors ensuite, on verra qui se qualifiera pour l'élection présidentielle. Il y aura des débats entre les candidats le moment venu. Mais pour le moment, à charge pour nous de nous organiser, d'aller vers les Français, je le dis, je le répète, et puis surtout de bien choisir notre candidat, de nous rassembler autour de notre candidat pour l'élection présidentielle, mais on n'a pas à débattre avec Éric Zemmour parce qu'on n'a pas à lui faire de la publicité. Ce qu'on fait, vous voyez, la preuve, c'est qu'on débat depuis quelques minutes Éric Zemmour au lieu de parler des Républicains et de nos propositions. Pourtant, on a des propositions fortes qui sont sur la table, qui répondent d'ailleurs aux préoccupations d'Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour agite des sujets, mais il ne propose jamais rien sur le sujet de l'immigration, par exemple. Michel Barnier a travaillé de façon très sérieuse à un moratoire qu'il a expliqué et personne aujourd'hui n'a pu démontrer qu'il avait tort dans les propositions qu'il a faites.
Donc, comment est-ce que vous expliquez que la dynamique sondagière lui est favorable? Il grimpe dans les sondages et il a multiplié son score par deux en un mois.
Ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen à un moment, Éric Zemmour, c'est du révisionnisme. Hein. C'est pas mieux que Jean-Marie Le Pen, c'est même pire. Et Jean-Marie Le Pen, à un moment, a attiré l'attention par des excès de langage, par des dérapages, en créant l'actualité et l'intérêt autour de lui, mais je pense que les Français, au fur et à mesure vont ouvrir les yeux. Enfin, récemment, les déclarations d'Éric Zemmour sur Pétain et De Gaulle, moi, me font réagir. Je pense que je ne suis pas le seul. Donc les Français vont petit à petit ouvrir les yeux sur qui est vraiment Éric Zemmour. C'est un phénomène médiatique, une bulle qui retombera, j'en suis convaincu, très très vite. Il occupe aussi un espace que nous n'occupons pas, et ça c'est peut-être notre faute, mais parce que nous avons choisi notre calendrier, nous n'avons pas encore notre candidat. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit Emmanuel Macron ou Éric Zemmour, sont surévalués dans les sondages, parce que tout simplement nous n'occupons pas pleinement l'espace qui doit être le nôtre, parce que nous n'avons pas encore de candidat. Nous aurons ce candidat le 4 décembre prochain, et d'ici là, débattons entre nous et devant les Français du meilleur candidat pour 2022.
Merci beaucoup Daniel Fasquel, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Très bonne journée à vous. Preuve cependant qu'Éric Zemmour est au cœur du débat politique. Hier soir, Emmanuel Macron l'a évoqué, sans le nommer, depuis la Bibliothèque nationale de France, en parlant des prénoms français qu'Éric Zemmour veut imposer.
Nous nous posons souvent dans le débat politique la question de notre identité. Je veux aussi ici vous dire une conviction profonde. Notre pays, notre nation a été bâti, je le répète souvent, par deux institutions, l'État et la langue. Mais notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation.
Voilà ce qu'a dit hier soir le président de la République Emmanuel Macron. Il est 12h37. Restez bien avec nous. On va parler tout de suite de la lutte contre l'islamisme. Gérald Darmanin annonce la dissolution de 10 lieux de culte et de 2 associations radicales. Le ministre de l'Intérieur demande également la dissolution d'une maison d'édition qui publie des livres où l'on prône l'extermination des juifs et la lapidation des homosexuels. Ça se passe en France. On est en direct avec Alexandre Delval, spécialiste de ces questions. Bonjour Alexandre Delval.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre « La mondialisation heureuse ». Il y a beaucoup de maisons d'édition de ce type en France. La mondialisation dangereuse, dangereuse, évidemment.
Mais l'autre titre existait aussi. Oui, en fait, ce qui est assez intéressant dans ce débat, c'est que le ministre que vous avez cité et la loi sur le séparatisme qui a été renommée, confortée les principes républicains, va dans le bon sens. Et c'est la première fois qu'une majorité va dans ce sens, puisqu'on n'a jamais rien fait contre le séparatisme islamiste depuis 40 ans. Donc ça va dans le bon sens. Mais on peut aller beaucoup plus loin, car ce ne sont pas 89 lieux de culte qui posent problème en France et qui sont intégristes et séparatistes, contrairement à ce que dit le gouvernement. Moi, j'en dénombre au moins 700, et c'est très facile à détailler. 60 qui relèvent du Tablighe, qui est une organisation ultra-radicale qui prône la non-intégration et qui, d'origine indo-pakistanaise et qui est tout à fait connue du rapport de la DGSI, vous savez, mosquée salafiste, un rapport qui a été retentissant de la Direction générale de renseignement de sécurité intérieure. 147 autres mosquées, plus de 20 écoles qui relèvent des Frères musulmans, une organisation qui est la matrice de l'islamisme politique et du terrorisme. Vous savez qu'un ancien des Frères musulmans a créé Al-Qaïda. 190 sites salafistes qui sont d'origine wahhabite, vous savez, cet islamisme importé par l'Arabie saoudite qui coupe les mains et qui lapide, et qui est tout à fait enseigné en Europe, et 300 à 400 lieux de culte directement liés à l'islamisme d'Erdogan, c'est le DITIB, c'est le réseau consulaire avec les imams détachés de Turquie qui représentent 50% des imams en France, et le fameux Milli Gülüş, qui est encore plus radical qu'Erdogan, qui est fondé sur une doctrine complètement pathologique de l'obsession des juifs et des francs-maçons qui complotent. Et ça, c'est une organisation qui voulait détruire le kémalisme et qui accusait Atatürk d'être un juif. Et c'est le maître spirituel d'Erdogan qui a créé cette organisation, Milli Gülüş. Donc salafite, Milli Gülüş, tablique, frère musulman, c'est 700 lieux de culte. On en a fermé une dizaine et on compte en fermer peut-être...
Et pourquoi, selon vous, c'est si compliqué de les fermer s'ils sont si dangereux ?
Alors, c'est compliqué parce que dans les lois actuelles, on n'a pas voulu faire, comme le révisionnisme et le nazisme, inclure dans les lois qui interdisent certaines idéologies le totalitarisme islamiste. Et ce qui fait qu'on est obligé d'agir au cas par cas quand quelqu'un est pris en flagrant délit d'appel au meurtre, comme l'imam de Toulouse, et encore... Vous avez vu qu'il a été relaxé, parce qu'on n'arrive pas à s'appuyer sur une juridiction qui met au même niveau que le nazisme, l'islamisme. Et moi, je le prône depuis des années. Une idéologie qui est obsessionnellement anti-juive, qui appelle à tuer les non-musulmans, qui est suprémaciste, conquérante et qui veut faire régner la charia sur la terre entière de gré ou de force, pour moi, c'est une organisation aussi dangereuse que le nazisme. Et donc, elle devrait, comme les lois le prévoient en France, eh bien, interdire cette idéologie. Et si on pouvait faire cette loi qui met au même niveau que le révisionnisme et le nazisme, l'islamisme radical, alors pas n'importe lequel, pas les imams tolérants, mais les organisations dont j'ai parlé à l'instant, qui prônent tout le séparatisme. Même les imams turcs officiels prônent le séparatisme. Erdogan a dit que c'était un crime contre l'humanité de s'intégrer. Et il a une vision extrêmement expansionniste, néo-ottomane de l'islam. Eh bien, on pourrait parfaitement le faire, puisque l'Autriche, avant même que les populistes arrivent, vous savez, en 2013, l'Autriche a totalement interdit ses organisations.
Merci Alexandre Delval.
Des centaines d'imams.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous, auteur du livre La mondialisation dangereuse. Merci à vous. 12h41, restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on va parler des centres qui pratiquent la PMA. Il y a des embouteillages, les décrets qui autorisent la PMA. Et pour les couples de femmes et pour les femmes seules, ces décrets viennent juste d'être publiés. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h44, des embouteillages donc dans les centres qui pratiquent la procréation médicalement assistée. Les décrets qui autorisent la PMA pour toutes viennent d'être publiés. Virginie Riva, bonjour Virginie.
Bonjour.
Vous nous dites qu'il y a beaucoup de demandes. Hein.
Oui, effectivement, les demandes affluent dans les centres, environ 3500 selon le ministère de la Santé, qui s'attendait plutôt à 1 000 000. Toutes ces femmes qui attendaient la loi pour avoir un enfant ont déjà commencé les rendez-vous médicaux depuis début août, histoire de gagner du temps. Il faut dire que le Conseil d'État a pris son temps pour tout étudier, mais n'a finalement rien modifié à la loi de bioéthique. L'âge légal pour bénéficier d'un transfert d'embryon ou d'une insémination artificielle reste 45 ans, mais 43 pour bénéficier d'un prélèvement d'ovocytes. En revanche, aucune limite basse d'âge, théoriquement dès 18 ans. Une femme en couple avec une femme ou une femme seule pourra demander une PMA, même si, bien sûr, tout cela est soumis à une décision médicale collégiale. D'ailleurs, la composition des équipes de praticiens est précisée dans le décret avec la présence demandée d'un psychiatre ou d'un psychologue. Autre grande nouveauté, il sera désormais possible de conserver ses ovocytes jusqu'à 37 ans et non plus 35. L'homme, lui, peut conserver ses spermatozoïdes à partir de ses 29 ans jusqu'à ses 45 ans.
Merci beaucoup Virginie. On change totalement de sujet. C'est toujours un moment très attendu pour une compagnie aérienne de recevoir un nouvel avion. Air France vient de recevoir son tout premier Airbus A220. C'est un nouveau moyen courrier. Il est plus économe, il est plus aérodynamique, il est moins bruyant. C'est important pour les passagers, évidemment. C'est enfin une perspective positive, alors que le trafic aérien reste à environ les deux tiers de son niveau d'avant-crise. L'A220 est arrivé du Canada hier soir à l'aéroport de Roissy. Reportage côté coulisses, signé Aurélien Fleureau.
Il est un peu plus de 22h et c'est avec quelques minutes d'avance que l'appareil se pose sur le tarmac. Accueil assuré par la direction du groupe Air France. Tout juste sortie du cockpit, Nathalie, commandant de bord, ravie d'avoir enfin pu passer du simulateur à la réalité.
C'est beaucoup d'émotion quand même parce que c'est l'aboutissement de presque 2 ans de projet pour beaucoup, beaucoup de monde à Air France. Donc des moteurs plus performants, qui consomment moins, qui font moins de bruit pour les riverains. Des commandes de vol qui sont extrêmement agréables pour les pilotes. Cet avion, il coche toutes les cases.
Un avion plus propre, un enjeu majeur, explique Anne Régaï, la directrice générale de la compagnie.
Le symbole d'un voyage qui est plus soutenable, 20% d'émissions de CO2 en moins. On accélère le renouvellement de notre flotte. Hein. Donc c'est aussi le symbole, voilà, de cette trajectoire de décarbonation qui est absolument vitale. idéal pour nous.
Premier vol commercial fin octobre pour cet A220, le premier d'une longue série puisqu'Air France en recevra 60 d'ici 2025.
Voilà, la 220, 12h47. Restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. Dans un instant, on sera avec un géomètre expert qui a calculé l'altitude officielle du Mont Blanc. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h50, 4807 mètres et 80 cm, c'est l'altitude officielle du Mont Blanc. Je répète, 4807 mètres et 80 cm, soit 92 cm de moins qu'en 2017. Bonjour Jean Desgarret.
Bonjour Romain, comment allez-vous?
Eh bien écoutez, très bien, vous aussi visiblement. Vous êtes, vice-président de la Chambre départementale des géomètres de Haute-Savoie en charge de la mission de mesure du Mont-Blanc. Quel job! Comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'altitude du Mont-Blanc? Expliquez-nous.
Bien, pour mesurer l'altitude du Mont-Blanc, c'est assez simple en fait. Il faut monter dessus déjà. Alors c'est simple, mais c'est pas si simple à faire. Et ensuite, il faut appuyer sur le bouton. On a des antennes avec des récepteurs. Il faut les paramétrer, etc. Mais une fois qu'on est dessus, on appuie, on enregistre. Et on enregistre les données pendant au moins une demi-heure pour l'antenne principale qui nous permet de calculer le point culminant de l'arête sommitale. Mmh. Et là, où on avait très beau temps, donc on est resté 2 heures au sommet, presque 3 pour certains. Et on enregistre ces données qui nous permettent de faire des calculs de distance entre le point où on est et le satellite qu'on a en référence. Alors avec un seul satellite, on a une sphère. Avec 2 satellites, on a une intersection de sphères, donc on a un cercle. Avec l'intersection de 3 sphères, on a un point, si c'est mathématiquement parfait. Du coup, là, on a une espèce de triangle sphérique. Et avec un 4e satellite, on résout les problèmes de temps. C'est-à-dire qu'on a 4 dimensions à retrouver, hein, X, Y, Z, les 3 dimensions spatiales que tout le monde connaît, et puis le temps. Le temps parce que les signaux satellites traversent toutes les couches de l'atmosphère, ils sont déformés par cette traversée. Et les satellites sont équipés d'horloges atomiques, donc ça, on connaît exactement leur position au millième de seconde. Mais nous, notre antenne, elle n'a pas d'horloge atomique, donc on a besoin de résoudre cette problématique. Après, plus on a de satellites, mieux c'est. Donc, au sommet du Mont-Blanc, on n'a pas tellement de masques, et on a un ciel bien dégagé. Mmh. Et on a une 30aine de satellites de 4 constellations différentes. Hein, satellites américains, GPS, européens, Galiléo, russes, GLONASS et chinois, Baidu.
C'est formidable. Voilà. Pourquoi ça bouge?
Ça bouge pourquoi parce que ça recharge en permanence. On est au sommet du Mont-Blanc, on a 40 mètres de neige et de glace sous le sommet. La roche culmine à 4792 mètres, donc elle n'est pas à l'aplomb du sommet, bien sûr. Hein. Si vous faites la différence entre 4810 et 4792, vous verrez que ça fait pas, enfin, ça fait 18, quoi. Voilà. Donc le sommet du Mont Blanc, il est sujet aux intempéries. Il neige, ça recharge, ça gèle, ça se transforme en glace, le glacier s'écoule. Sur 20 ans, on a mesuré un déplacement du sommet le long de l'arête sommitale sur une amplitude de 61 mètres. Et on a vu, on a mesuré un déplacement de l'arête transversalement sur une amplitude de 9 mètres.
Mmh. C'est fou ce que vous êtes en train de nous raconter. Je regarde les gens en régie là, qui sont passionnés par ce que vous nous racontez.
Et c'est magique.
C'est magique, c'est certainement le cas pour tous les auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup Jean Desgarret. Merci d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour nous expliquer tout ça. Très bonne journée à vous. Cette belle histoire que je voulais vous raconter également dans Europe Midi au début de l'année 1970, ça remonte à 50 ans. 4 lycéens danois partent interroger John Lennon et Yoko Ono, rien que ça, qui vivaient à l'époque au Danemark. À cause des intempéries, l'interview se fait au domicile de John Lennon et de Yoko Ono. John Lennon est décontracté, chaussettes sur la table, et il chante et les jeunes enregistrent. Avec une cassette, comme on faisait à l'époque. Les lycéens ont aujourd'hui un petit peu plus d'une quinzaine d'années. Ils ont environ 65-70 ans et ils ont vendu la cassette. Enregistrement inédit, vendu hier soir, 50 000 euros lors d'une vente aux enchères au Danemark. Écoutez.
Give peace a
Voilà, ça c'est Give Peace a Chance, évidemment un des titres phares des Beatles. John Lennon, voilà, qui a donc chanté avec ses lycéens. C'était il y a 50 ans. Grande soirée au Parc des Princes hier soir. Victoire du PSG 2-0 en Ligue des Champions face à Manchester City. Premier but parisien pour Lionel Messi. Cyril de la Morinerie, est-ce que le trio magique Mbappé, Neymar et Messi a fonctionné ?
Oui, il a fonctionné, hein, d'abord parce que Mbappé et Neymar sont à l'origine du premier but parisien. Et puis sur le deuxième inscrit par Lionel Messi, c'est grâce à une passe géniale de Kylian Mbappé, une talonnade, que l'Argentin se retrouve en position de marquer. La MNM commence à trouver ses marques. Le Parc des Princes est le nouveau jardin du sextuple Ballon d'Or. S'enflammait d'ailleurs hier des supporters que j'ai rencontrés. Alors hier soir, Paris a souffert, c'est vrai, mais le gardien Donnarumma était impeccable. Le capitaine Marquinhos était le patron en défense. Le milieu a rayonné, hein, le Sénégalais Gueye, et surtout le petit Italien Marco Verratti de retour de blessure. Une technique incroyable, une gestuelle magnifique. Même le mythique entraîneur de Manchester City est tombé sous le charme de Marco Verratti.
I'm in love.
Je suis amoureux. C'est un joueur exceptionnel. Quand il est sous pression, il peut faire une magnifique passe. Je connais son caractère, sa personnalité. Je suis ravi qu'il soit de retour après sa blessure. Oui, c'est un joueur exceptionnel.
Voilà, Paris a répondu hier soir aux critiques sur son manque de style en signant une belle prestation collective, un succès qui pourrait être fondateur.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Merci à vous Cyril. 12h56.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
Le temps avec vous Anissa Dadi. Plus les heures passent, plus les pluies deviennent rares, hein ?
Oui, alors Romain, la perturbation qui traverse le pays depuis ce matin, elle arrive cet après-midi vers le sud. Donc cet après-midi, le ciel va se couvrir des Pyrénées jusqu'au nord-est, hein, quasiment jusqu'à la Franche-Comté et le sud de l'Alsace. Le ciel est plus gris en effet, mais la perturbation a perdu en intensité. Donc cet après-midi, ce sont vraiment des pluies très faibles, des petites averses qui sont attendues dans toutes ces régions. À l'arrière de la perturbation, dans le nord-ouest et puis au bord de l'Atlantique, eh bien là, nous avons un temps qui est nettement plus ensoleillé et dégagé. Au bord de la Méditerranée, on a toujours ce vent qui souffle. Alors c'est vrai que là, le soleil est radieux, hein. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. C'est grâce au Mistral et à la Tramontane qui soufflent jusqu'à 70 km/h. Il y a du vent aussi cet après-midi au nord de la Seine, en Normandie, sur les Hauts-de-France et sur le bassin parisien. Ça souffle. Alors les températures, elles sont bien en dessous des normales de saison. Couvrez-vous cet après-midi. Nous n'avons que 15 degrés à Aurillac, Metz et Lille, 16 à Paris et Strasbourg, 17 degrés à Brest et Belfort, 19 à Nantes, Strasbourg et Clermont-Ferrand, 20 degrés à Biarritz et Bordeaux, 25 à Montpellier et 28 pour Ajaccio.
Merci à vous Anissa, 12h57. Merci d'avoir choisi Europe 1. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et également Emmanuel Dutheil. Nous, on se retrouve demain à la même heure, midi et demi, pour un nouvel Europe Midi. À demain, très bel après-midi sur Europe 1.